Ainsi, le chapitre 1er parle de la joie dans la souffrance. Le chapitre 2, de la joie dans le service. Le chapitre 3, de la joie dans la foi. Et le chapitre 4, la joie dans le don. Aujourd'hui, c'est le chapitre 1. La joie dans la souffrance. Je dois avouer que c'est un thème qui n'est pas très réjouissant. Ça, je vous l'avoue. Et pas très porteur non plus. Super! On vient au culte pour entendre parler de la souffrance. Ouais! Et en plus, il faut qu'on ait de la joie. Ouais! C'est pas très réjouissant tout ça. Et je sais, en prêchant la joie dans la souffrance, je ne pars pas gagnant, ça. Mais ce que je sais, par contre, c'est que la parole de Dieu est une parole qui va m'aider à grandir dans ma vie. Et que même dans des choses que je ne comprends pas toujours d'un premier abord, eh bien, Dieu désire quand même me parler. Et c'est dans ce sens que j'aimerais prêcher pour me parler et vous parler. Voilà. D'accord. Mieux que de vous parler, j'aimerais que peut-être dans ce temps de prédication sur le chapitre 1, 2, 3, 4 de Philippiens, nous puissions laisser parler Dieu en premier. Et parfois, les hommes, les femmes, ont tellement de choses à dire sur Dieu qu'on oublie de laisser parler Dieu. Alors je vous promets qu'aujourd'hui, on va laisser parler Dieu. Pas d'abord au travers de ma voix, mais au travers de la parole. Et puis je vous propose de lire dans son entièreté le chapitre 1, pour qu'on puisse entendre la parole de Dieu. Aujourd'hui, vous pourrez chacun dire, je suis venu à l'église et j'ai entendu la parole de Dieu. Alors, j'ai demandé qu'on ne le mette pas sur les rétros, parce que soit vous avez dans votre propre Bible, ce qui vous encourage à venir avec votre Bible, ou alors vous écoutez, mais soyons actifs dans cette écoute. Paul et Timothée, serviteurs du Christ Jésus, à tous les saints en Christ Jésus qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à mon Dieu toutes les fois que je me souviens de vous. Je ne cesse, dans toutes mes prières pour vous tous, de prier avec joie, à cause de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne on poursuivra l'achèvement jusqu'au jour du Christ Jésus. Il est juste que j'aie pour vous de telles pensées parce que je vous porte dans mon cœur et que dans mes chaînes, comme dans la défense et l'affermissement de l'Évangile, vous participiez tous à la même grâce que moi. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse du Christ Jésus. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour abonde de plus en plus en connaissance et en vraie sensibilité. Ainsi, que vous sachiez apprécier ce qui est important afin d'être sincère et irréprochable pour le jour du Christ, rempli du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Je veux que vous le sachiez, frère, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, il est devenu manifeste que c'est pour Christ que je suis dans les chaînes. La plupart des frères confiants dans le Seigneur, en raison de mes chaînes, ont beaucoup plus de hardiesse pour annoncer sans crainte la parole de Dieu. Certains, il est vrai, prêchent le Christ par envie et rivalité, mais d'autres le font dans des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile. Tandis que ceux-là annoncent le Christ dans un esprit de rivalité. Leurs intentions ne sont pas pures. Et ils pensent ajouter quelques tribulations à mes chaînes. Qu'importe, de toute manière, que ce soit sous un faux prétexte ou que ce soit en vérité, Christ est annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Selon mon ardent désir et mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, Christ sera exalté dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort, car pour moi, Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. Mais est-ce utile pour mon œuvre que je vive dans la chair? Que dois-je préférer? Je ne sais. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. J'en suis persuadé, je le sais. Je resterai et je séjournerai auprès de vous tous pour votre progrès et pour votre joie dans la foi. Mon retour auprès de vous vous donnera ainsi un nouveau et abondant sujet de vous glorifier à cause de moi en Christ Jésus. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile du Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant dans une même, d'une même âme, pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement intimider par les adversaires. C'est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous, de salut, et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait grâce, non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu livrer et que, vous l'apprenez, je livre encore maintenant. Amen. Amen. Par notre connaissance de la Bible, et je peux être certain que vous connaissez bien la Bible, on peut comprendre que Paul est un spécialiste de la souffrance. En 2 Corinthiens 11, le verset 23, pour ceux qui prennent des notes, 23 et suivant, il est dit que Paul était un habitué de la souffrance. En souffrance par les travaux, par les emprisonnements, par les coups, en danger de mort, fouetté à 5 reprises, frappé à coups de bâton à 3 reprises, lapidé, 3 fois il a fait naufrage, constamment en danger, par les juifs, par les non-juifs, souvent affamé, dans le froid, dans le dénuement. C'était pas évident, et voilà que d'autres passages nous disent qu'il avait encore un problème corporel, une écharpe dans son corps, certainement dans son œil, et qui lui faisait vivre une souffrance continue. Ouh ! Qui veut être un Paul ? Jésus, d'ailleurs, était aussi habitué à ce genre de difficultés. Ésaïe l'avait prophétisé, et effectivement, Jésus l'a vécu. Jésus est l'homme de douleur. Et Ésaïe continuera en disant « habitué à la souffrance ». Et voilà que d'une façon particulière, l'épître des Philippiens vient superposer de la joie dans cette souffrance. Mais pour moi, la joie et la souffrance sont deux réalités totalement opposées. C'est absolument pas compatible de mettre la joie avec la souffrance. Tout notre être entier, il tend à ce que la souffrance qui nous a atteint puisse disparaître. Tout le temps. Et là, on parle de manifester de la joie dans la souffrance. Ah non, je pense que je n'ai pas bien compris ce texte biblique. Et pourtant, Paul, à plusieurs occasions, dans ces versets du chapitre 1er, parle de la joie dans la souffrance. Alors moi, j'ai compris. Et je me suis dit, oui, la seule possibilité de pouvoir rendre compatible la joie et la souffrance, c'est au travers d'un miracle où Dieu va nous affranchir de la souffrance. Alors là, on va être joyeux, n'est-ce pas? Si je souffre et puis tout d'un coup Dieu me guérit, pouf, je ne souffre plus, je suis joyeux. Voilà. Mais parfois, quand on demande la prière, il semble que rien ne se passe. En tout cas, on reste avec notre souffrance. Et au lieu de la joie qu'on avait programmé, voilà que c'est de l'amertume qui prend le dessus. Pourtant, dans les souffrances que Paul vit, la joie, elle est là. Verset 4, il prie avec joie. Le verset 18 nous montre que c'est un accroc à la joie. Nous disons, je me réjouis et je me réjouirai encore. Mais si dans ce premier chapitre, Paul manifeste de la joie dans la souffrance, il faut bien comprendre que ce n'est pas une joie, comme je l'ai dit en préambule, normale, enfin, que tout le monde peut manifester. C'est bien cette joie vécue au travers d'une vie centrée sur Jésus-Christ. Et puis la souffrance, ce n'est pas seulement la souffrance comme on peut le penser, mais ce n'est pas ici une souffrance physique, comme une souffrance qui est causée par une maladie que vous pouvez avoir, ou un accident que vous avez peut-être subi. Ce n'est même pas une souffrance de l'âme. Et qu'est-ce que c'est une souffrance de l'âme? C'est peut-être une souffrance dans votre cœur, dans votre âme, qui est générée par des difficultés familiales, par des échecs, par des problèmes personnels, amoureux peut-être, par des choses qui vous font mal et qui restent cachées parce que vous n'avez pas de possibilité souvent d'exprimer ces choses. Et c'est une véritable souffrance qu'il ne faut pas oublier et qu'il ne faut pas non plus cacher, elle est là. Et je pense que Dieu a quelque chose à nous dire au niveau de cette souffrance. Mais dans ces deux domaines, au risque de vous faire déconnecter avec ce thème qui est la joie dans la souffrance, j'aimerais vous dire que Jésus ici, dans ces domaines physiques ou bien de l'âme, Jésus ne propose pas la joie. Certainement pas la joie. Mais sa paix. Auguste Glardon, là, il faut vraiment être très, 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 très vieux pour se souvenir de lui. Il écrit un cantique qui s'appelle « J'ai soif de ta présence ». Certains d'entre vous, les plus anciens, l'ont chanté dans leur jeunesse. J'ai regardé sur mes cantiques, dans tous les vieux recueils de cantiques que j'ai, il s'y trouve. Et il chantera ceci, c'est sa dernière strophe. Ô Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Alors, c'est toujours très intéressant de lire des paroles, c'est encore plus intéressant de savoir dans quel contexte ces paroles ont été écrites. Et Auguste Glardon, c'était un pasteur évangélique suisse de Genève, un de chez nous, qui a reçu un appel missionnaire pour les Indes, et qui est parti en 1861 avec sa famille en Inde. Et c'était difficile. Et dans les circonstances de sa vie missionnaire, son fils de 5 ans est décédé. C'est une tragédie, une douleur et une souffrance que les parents qui vivent de tels graves ne peuvent pas expliquer. C'est une véritable tragédie. Il n'y a pas de mort pour expliquer la perte d'un enfant, tellement que la douleur, elle est là. Et ce serait choquant d'aller vers lui et lui dire, mais tu sais, Auguste, il faut être rempli de joie. Parce que la Bible, dans le livre aux Éphésiens, dit qu'il faut avoir de la joie dans la souffrance. Comment tu n'as pas de joie dans la souffrance? Vous seriez la personne qui oserait dire ceci à cet homme? Et qu'est-ce qui se passerait si vous étiez la personne en souffrance et qu'on vous disait ça? Ça serait terrible. Je pense que les mains réagiraient peut-être plus vite que notre cœur. Et Auguste Glardon va exprimer cette confiance qu'il a en Dieu par ses paroles. Ô Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Et dans vos souffrances, comme dans les miennes, ce que nous demandons à Jésus, c'est très simple. Soit un miracle, soit sa paix. On demande le miracle. Demandons aussi la paix, si le miracle n'a pas lieu. Mais ici, il n'est pas du tout question de souffrance de l'âme ou de souffrance physique. Je dirais plutôt que c'est une souffrance contextuelle que Paul est en train de vivre, c'est-à-dire qu'il souffre non pas à cause d'une maladie, d'un accident ou d'un décès dans sa famille, il souffre parce qu'il annonce l'Évangile. Et c'est dans ce cadre-là que ce premier chapitre de l'Épître aux Philippiens doit s'articuler. Souffrir pour l'Évangile. Et justement, Paul se trouve dans une situation particulière, c'est qu'il est en prison à cause de l'Évangile. Et dans ce cas précis, Paul ne va pas être délivré par Dieu, comme Dieu l'avait fait précédemment. Vous savez, tout avait tremblé, et puis Paul est parti, etc. Mais il va le laisser dans sa prison. Et parce que Paul a compris des choses, eh bien, il va accepter que dans sa vie, il y aura une cohabitation entre la souffrance, d'une part, et la joie. Ce n'est plus la joie dans la souffrance, comme le texte si résumé se trouve sur votre petite feuille bleue, mais si je veux m'exprimer par une longue phrase, mais qui veut dire ce que je veux dire, c'est la joie vécue au travers d'une vie centrée sur Jésus-Christ dans la souffrance due à l'annonce de l'Évangile. Et c'est vraiment très précis, cette dimension-là. Paul était donc en prison à cause de l'Évangile. Il y était mis par ses détracteurs qui voulaient le faire taire, et en le faisant taire, il coupait la tête ainsi à ce mouvement chrétien qui prenait de plus en plus d'ampleur et qui est arrivé aux portes de l'Europe et qui, d'une certaine façon, narguait la puissante Rome. Et les gens étaient très contents de voir Paul en prison. Puis les versets 12 à 14, il est dit ceci: « Je veux que vous le sachiez, frères, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, il est devenu manifeste que c'est pour Christ que je suis dans les chaînes. La plupart des frères confiants dans le Seigneur, en raison de mes chaînes, ont beaucoup plus de hardiesse pour annoncer sans crainte la parole de Dieu. » Alors, il faut savoir que les prisons romaines étaient un petit peu de deux sortes. D'abord, des cellules, les grandes cellules communes qui étaient fermées par une grille à clé et qui étaient surveillées par un geôlier. C'était ce qui s'était passé dans la première fois où Paul était libéré, souvenez-vous, dans le livre des Actes. Mais il y avait aussi des espaces qui étaient plus ouverts, qui étaient proches d'une sorte de garnison où il y avait un chef, et puis ce chef avait une tente qu'on appelait un peu le prétoire, et puis qui était un lieu dit qui voulait dire un endroit où il y avait l'armée, et puis dans lesquels les prisonniers de Marc avaient un petit peu plus de liberté que de simplement croupir en prison. Et puis, ils étaient obligés d'être gardés par 4 soldats. Et puis, en plus d'être gardés, ils étaient enchaînés. Donc, j'ai fabriqué des chaînes. Un petit peu pour montrer que Paul, quand il était enchaîné, ce n'était pas simplement une phrase rhétorique, hein, en disant « oui, je suis enchaîné, je ne peux pas faire grand-chose », mais il avait vraiment des chaînes. Et puis parfois, les Romains, pour empêcher les gens, les prisonniers de partir vite, comme ils avaient une certaine liberté, ils mettaient aussi des bois aux pieds. Alors, il y a 3 trous avec la tête, mais ce n'était pas ça, hein, c'était plutôt ça dans le Moyen-Âge. Mais du temps de Jésus, c'était ça, ils mettaient les pieds, ils étaient obligés, ils étaient pieds et poings liés, au moins, ça. Et puis, ils étaient en plus gardés par une escouade de 4 soldats. Comme ça, vous avez une vision de ce que Paul pouvait vivre. Comme Paul était aussi citoyen romain, les Romains avaient un petit peu de difficulté à le mettre avec des non-chrétiens. Donc il était vraiment un prisonnier particulier qui avait une certaine liberté. Mais pour empêcher les soldats de sympathiser avec ces prisonniers, parce qu'ils avaient peur que ces soldats allaient sympathiser et puis peut-être proposer une évasion, eh bien ces soldats étaient changés chaque jour. Quelle aubaine pour Paul! Imaginez, on le met en prison pour le faire taire, pour le casser, pour le briser, et voilà que l'armée romaine lui amène sur un plateau, chaque jour, 4 nouvelles personnes à évangéliser. Et vous imaginez donc sa joie dans sa souffrance, et aussi l'humour qui est dit par ces quelques versets du chapitre 12. Je veux que vous le sachiez, frère, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Et au bout de quelques temps, en effet, toute la garnison va savoir non seulement que c'est à cause de Jésus que Paul est en prison, mais elle va aussi être imprégnée du message de l'Évangile. Ça, c'est chouette, n'est-ce pas? Et finalement, ça le remplit de joie de voir que même si l'ennemi veut l'arrêter, eh bien Dieu permet que son ministère puisse continuer. Dieu permet qu'il puisse continuer ce pour quoi il est sur terre, c'est-à-dire partager l'Évangile. La joie dans une souffrance pour le service pour Jésus. Paul en prison aurait pu se rebeller contre Dieu, du genre... Oui, Seigneur, c'est quand même pas normal, avec tout ce que j'ai fait pour toi, tu pourrais quand même me rendre ce petit service de me libérer. Moi qui croyais que tu allais m'utiliser pour que ce monde puisse te connaître, ben c'est malin ce que tu viens de faire, quel gâchis, tu vois, moi en prison. C'est peut-être ce que j'aurais dit dans la situation où Paul était. J'aurais accepté quand même cette situation, dit oui, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous savez, c'est des versets qu'on se dit pour des fois pour se donner bonne conscience, mais on n'y pense pas du tout que c'est la vérité, en tout cas pour la situation dans laquelle on est en train de se vivre. J'aurais dit oui, j'accepte cette situation, Seigneur, mais je suis quand même étonné de ce que tu me fais subir. Hein. Dans le sens, tu as raison, mais pas tout à fait quand même, parce que tu as vu où je suis, puis tu as vu ce que je pourrais faire si j'étais libre. Eh bien, Paul, pas du tout, pas du tout. Il dira, et on a lu dans les versets 3, 4, 5, que même dans son culte personnel, il s'en fiche de sa situation présente. Il s'en fiche de ses difficultés. Pour lui, ce n'est pas l'essentiel de sa vie de prière. L'essentiel de sa vie de prière, c'est se centrer sur ce message d'évangile. Et il est en train de bénir ses Philippiens, de bénir ce qu'ils sont en train de vivre, de faire, etc. Et puis, il est rempli de reconnaissance. Alors, moi, encore une fois, enfin, vous voulez dire que je suis un piètre chrétien, hein, mais je n'aurais pas forcément fait la même chose que Paul. Parce que si j'avais été en prison, et puis que dans mes moments de prière, j'aurais quand même passé plus de temps à parler de ma situation à Jésus. Et puis j'aurais peut-être jeûné, prié plus, pour qu'il me sorte de là. Mais jamais dans le texte, on voit Pierre se rebeller contre ce qui se passe. Paul, vous suivez. Il a compris, et c'est bien que vous soyez tous attentifs maintenant, il a compris que Paul n'était pas le centre du monde. Et que dans les prières que Paul faisait, Paul n'était non plus pas le centre du monde. Mais que le centre de sa vie, c'est Jésus. Et il va donc passer son temps... Même s'il est dans cette souffrance hein, que lui a fait subir l'Évangile, il va passer ce temps à se réjouir des progrès de l'Évangile. Qu'il soit là ou pas, l'Évangile continue à grandir. Alléluia. Alors donc, comme je le disais, moi j'ai tendance à faire l'inverse. J'explique ma situation au Seigneur, afin qu'il comprenne bien par quoi je passe, et puis qu'il fasse vraiment quelque chose pour moi. Des fois, je ne comprends pas Paul. Vraiment, il n'est pas un être humain comme les autres. Mais Paul a choisi le camp de la joie, alors qu'il souffrait pour l'Évangile. Et puis, mieux, il va parler de deux sortes d'évangélistes dans les versets 15 et 17. Ceux qui le font pour continuer cette œuvre qu'il était en train de commencer dans la région de Philippe, qui n'ont pas été arrêtés dans leur élan parce que Paul avait été physiquement arrêté. Et ceux qui le faisaient, donc qui évangélisaient par jalousie et par rivalité. En fait, qu'est-ce qui se passait? Ils profitaient de l'absence de Paul pour prendre sa place. Il profitait que Paul ne soit plus là pour devenir le leader de l'évangélisation dans cette région. La manœuvre était de lui causer du tort, tant dans son moral que dans son corps, parce qu'il était à la merci de ses geôliers, et puis il pouvait même risquer de perdre sa vie. Puis Paul, il ne fait pas non plus de différence, il dit, attendez, il prêche l'évangile pour de mauvaises raisons, mais je m'en fiche, tant qu'il prêche Jésus. Jésus est annoncé, et puis il ne s'en fait pas du tout. Il aurait pu dire quand même, je vais être relégué numéro 2, c'est pas normal Seigneur, c'est toi qui m'avais dit que j'allais être l'apôtre des païens, et puis pas le deuxième apôtre des païens, ou le remplaçant. Non, il se réjouit qu'au travers de cette situation, Christ est encore plus annoncé aux païens. Et puis, au verset 18, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est un petit peu accro à la joie, parce qu'il va dire, oui, je suis heureux, je suis joyeux, je suis super content, parce que l'évangile est annoncé, et en ce sens-là, ses pensées et sa prière ne sont pas dirigées vers lui-même, comme on a tellement l'habitude de le faire, mais vers l'extension de l'évangile, vers Jésus-Christ lui-même. Et c'est dans ce contexte que Paul va dire ces paroles qui sont pleines de sens et de profondeur, au verset 20 et 21. « Mais maintenant, comme toujours, » et ce « comme toujours » pour moi, il est essentiel parce que ce n'est pas seulement dans les difficultés, seulement dans la souffrance, mais que ce soit dans la souffrance ou sans souffrance, « mais maintenant, comme toujours, Christ sera exalté dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. » Car pour moi, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Moi, j'ai appris ce verset par cœur quand j'étais tout jeune converti. Avec la référence, c'était aussi mieux. Et puis, je me suis rendu compte que parfois, je l'utilisais comme verset prétexte pour montrer que j'étais très spirituel. Vous savez, Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Pas de souci, hein. Ah, c'est bien. Mais je me rends compte que ce n'est pas un verset prétexte. Parce que Paul, ce n'était pas un prétexte, ce n'était pas pour faire bien. Ce n'était pas pour apporter une dimension philosophique à ce qu'il vivait, qu'il a écrit ces versets. Il les a écrits parce qu'il les vivait. Il les vivait. Et s'il les a vécus, alors moi je dois méditer aussi ces versets. Non pas en prenant du recul, de la hauteur, en disant « oui, c'est un beau verset », mais en disant « et moi, qu'est-ce qui pourrait se passer dans ma vie si ça devait m'arriver ? Est-ce que j'aurais dans ma vie une situation qui va me permettre de pouvoir dire « Christ est ma vie et la mort m'est un gain ?» Et j'ai réalisé qu'en Suisse, on n'a pas besoin de ça. Parce qu'on ne vit pas de telles souffrances. La prison n'est plus pour ceux qui annoncent l'évangile. Et notre vie n'est pas menacée en tant que chrétien. Et je me suis dit, tiens, quand est-ce que je pourrais dire « la mort m'est un gain » ? Jamais. Je ne sais pas vous, mais... Par contre, dans d'autres pays, c'est une véritable réalité. J'ai regardé encore ce matin l'index mondial des persécutions des chrétiens en 2020. Donc c'est tout récent. Et sur ces 30 premières journées, 33 premières journées de l'année, il y a déjà eu plus de 3000 chrétiens tués pour leur foi. En 2020, il y a eu 3700 détentions arbitraires connues de chrétiens à cause de leur foi. Et j'ai lu ce chiffre effarant qu'aujourd'hui, dans l'ensemble de l'humanité, il y a 260 millions de chrétiens qui souffrent à cause de leur foi. 260 millions de fois le verset prononcé dans une dimension réelle. Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Ça veut dire un chrétien sur 8. C'est énorme, hein ? Et puis, on le sait, je le rappelle aussi parce que c'est important de pouvoir prier pour ces gens. Et les cinq pays les plus dangereux pour nous en tant que chrétiens, c'est la Corée du Nord, c'est l'Afghanistan, c'est la Somalie, la Libye et le Pakistan en 2020. Et dans ces pays, malgré la terreur que cela peut engendrer, la foi de ces hommes et de ces femmes qui appartiennent à Jésus, elle reste puissante, elle reste vivante, elle reste sans compromis. Et ils continuent à annoncer l'évangile. Ça, c'est quand même fort. Et cette foi, elle est empreinte de Philippiens 1:21. Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Alors j'aimerais terminer en disant, mais prions pour ces Paul qui sont dans les prisons du monde. Prions pour ces Paul qui ont besoin de nos prières pour qu'ils puissent être libérés, pour qu'ils puissent être exaucés, pour qu'ils puissent retrouver la liberté de croire ce qu'ils désirent. Mais prions aussi pour nous, résidents en Suisse, pour qu'on ose parler de l'Évangile. Parce que je trouve paradoxal que des gens qui sont persécutés continuent à parler de l'Évangile, et l'Évangile a une croissance dans ces pays persécutés, alors que là où il n'y a pas de difficulté, l'Église s'endort et meurt. Et j'aime bien, au niveau du texte du livre des Actes, Actes 1:8 et Actes 8:1. Parce que Actes 1:8 nous dit que le Saint-Esprit va descendre sur nous et nous serons témoins partout, à Jérusalem, à Samarie, et aux extrémités de la terre. Et puis, Actes 8:1 dira ceci, qu'à cause d'une persécution, tous les chrétiens ont dû s'enfuir de Jérusalem, sauf les 12, et que c'est grâce à cette persécution que l'Église a grandi. Actes 8:1, vous pouvez regarder dans votre Bible. Et je me dis, mais nous qui sommes tellement en sécurité, est-ce qu'on ose quitter nos sécurités verrouillées par notre mutisme ou par l'intimidation de notre voisin? Est-ce qu'on ose encore prendre le risque de manifester notre joie pour annoncer l'Évangile? Parce que c'est de la joie déjà d'annoncer l'Évangile. Moi, je crois. Et j'aimerais terminer ceci en disant, osons prendre le risque de manifester la joie alors que nous allons peut-être prendre part à la souffrance de ceux qui annoncent l'Évangile. Et puis ma phrase de conclusion est celle-ci. On a tellement de peine à manifester la joie de notre salut. N'oublions pas aussi de manifester la joie d'annoncer l'Évangile et ses conséquences possibles. Amen.